L'heure de pointe, David Torchala.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'heure de pointe, ce magazine société sur Radio Présence. Alors aujourd'hui, nos studios ressemblent un peu à une grande maison parce qu'il a fallu beaucoup de monde autour de la table aujourd'hui. On a poussé un peu les chaises pour que tout le monde soit véritablement autour de la table pour dialoguer. C'est vrai qu'il y a un peu de monde, Delphine Pereira, aujourd'hui.
Oh, mais c'est plaisant.
Oui, ça vous va?
Très, je suis ravie.
Pour le moment, ils sont très calmes, on les entend peu. Anne Deslois, ça vous va, vous aussi?
Oui, on retrouve des amis.
Eh ben exactement, des amis, c'est la maison en casa, ça signifie la maison, à la maison en occitan, même si on l'entendra le président à un accent italien, on verra si c'est vraiment en casa en italien ou en occitan. Palmino Paolucci, vous qui êtes à côté de moi, on va faire connaissance et aussi avec vos équipes. Depuis 5 ans à Lourdes, cette initiative accueille des personnes en situation de fragilité pour leur permettre de retrouver un équilibre de vie dans un esprit de fraternité, de responsabilité aussi partagée, parce que en casa, c'est pas seulement un hébergement social comme les autres, hein, mais parce que chez vous, eh bien, les résidents participent pleinement à la vie quotidienne de la maison. On va le découvrir ensemble. On parle cuisine, je crois, on parle entretien, organisation de la maison, puis chacun, je crois, fait selon ses capacités, et vous nous le détaillerez. Voilà, une maison pleine d'amitié, une grande maison. Donc, Palmino Paolucci, bienvenue.
Merci.
Vous êtes venu en nombre. Mais c'est comme ça dans l'esprit de la maison. Il y a toujours du monde dans cette maison.
Oui. Il y a toujours du monde. Oui, c'est la maison qui ouvre ses bras pour permettre les rencontres et les partages des personnes de différents horizons. Voilà.
Autour de vous, alors présentez-nous les membres de votre équipe. Vous le ferez bien mieux que moi.
Voilà. Ici, à ma gauche, on a Alain Esparbès, qui est le trésorier.
Le trésorier Alain Esparbès, bienvenue.
Et on a Béatrix, qui est l'administratrice, et aussi une bénévole qui anime des ateliers dans la maison. On a Aléonore Leblanc, qui est...
Bonjour.
Notre directrice est Claire Val, qui est la secrétaire.
Bonjour.
Bon, eh bien, on a là vraiment une équipe au complet. Ben oui, vous êtes mobilisés parce que la semaine prochaine, le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, on est à Lourdes, hein, la maison en casa, les dates ne sont jamais choisies au hasard. Il y a cette journée portes ouvertes, vous allez ouvrir grand ces maisons. Mais avant de découvrir à la fois cet événement, faites-nous déjà entrer un petit peu dans en casa. Comment est née Palmino Paolucci? Comment est née l'association?
Alors, l'association, elle est née il y a 7 ans, voilà, parce que Lourdes, c'est la ville de l'accueil, la ville de l'espérance. On s'est retrouvé à plusieurs à sentir qu'il y avait un vide, peut-être un lieu de rencontre, un lieu de pour tout ce monde qui passe sous Lourdes. Des fois, ils cherchent un abri, voilà. Il y avait à l'époque, il y avait la possibilité de cette maison où il y avait un projet. C'était la fraternité Bernadette. Il y avait un projet pour les enfants trisomiques qu'il avait échoué. Et la Fondation Logement Social de Paris, elle était déjà venue pour acheter un immeuble pour cette association qui finalement s'est dissoute. Et avec Monsieur Brouvet, l'abbé Douard, avec notre famille, on a pensé vraiment à ce projet qui, à plusieurs, on pensait que c'était vraiment important de commencer cette aventure. Voilà.
On sait qu'à Lourdes, il y a de nombreux pèlerins, mais il y a aussi des gens, évidemment, qui vivent là toute l'année dans cette ville de 13 000 habitants. Selon vous, et puis la question, elle est aussi pour chacun de vous, est-ce que on constate une réelle précarité dans la ville de Lourdes? Claire Val.
Oui, moi, si j'ai commencé cette aventure, c'est justement parce qu'en travaillant au presbytère, on était confrontés régulièrement à des gens qui venaient au presbytère taper à la porte en disant... Voilà, on est arrivé sur Lourdes, on a trouvé un logement, mais bon, on n'est pas bien accueilli, c'est cher, on est mal logé. Est-ce que vous avez quelque chose? Bon, ben, nous, on n'avait pas de solution. Alors, on avait quelques adresses de propriétaires qui louaient des logements, mais c'était vraiment très, très réduit. Et donc, quand j'ai entendu parler du projet qui était monté autour de Palmino, là, Moi, je me suis investie dans ce projet parce que j'ai dit c'est vraiment une demande de la population lourdaise, des gens qui vivent là et qui ont besoin non seulement d'un toit, mais qui ont besoin d'être accompagnés parce qu'ils arrivent à Lourdes et ils sont complètement perdus. Donc voilà, il y avait besoin de vivre cette communauté et d'accompagner des gens qui arrivent à Lourdes, souvent de l'extérieur.
Alain Sparbes, vous qui êtes trésorier, vous voulez dire quelque chose?
Je crois que c'est pas assez su. Tout le monde comprend que à Lourdes, je dirais le moteur économique, ce sont les sanctuaires, hein, qui amènent, par exemple l'année dernière, 4 millions de pèlerins. Mais ce qui n'est pas assez compris, assez su, c'est que c'est aussi très lourd pour les services sociaux, pour les services sociaux de la ville. Lourdes, c'est un lieu où travaillent beaucoup de saisonniers, qui sont beaucoup pour beaucoup d'entre eux en situation de précarité. Ce sont aussi des gens qui viennent de différents horizons, et du monde entier, et d'Europe en particulier, et qui, pour certains d'entre eux, peinent à repartir de Lourdes, et vont stationner plus ou moins longtemps dans Lourdes. Et dans l'intuition initiale qui a été la nôtre, au moment où on a fondé l'œuvre qui est Nkaza, nous avons voulu, et en tout cas l'évêque du moment qui était Nicolas Brouvet, nous a inspirés, est venu nous recruter d'ailleurs individuellement pour constituer cette association, de façon à ce que l'Église prenne aussi sa part dans la prise en charge sociale des effets des pèlerinages. Et le but de cette maison, c'est de permettre de remettre en route, dans de bonnes conditions, des personnes qui, pour différentes raisons, sont venus à Lourdes, mais n'en repartent pas.
Anne Deslois.
Oui, justement, est-ce que vous pouvez nous donner le profil de différentes personnes qui sont accueillies à Nkaza? Parce que je pense qu'il y a une diversité de situations.
Voilà. Qui répond? C'est Aliénor, la directrice d'Nkaza.
Oui, et on se faisait justement la réflexion il n'y a pas longtemps qu'en ce moment, à Nkaza, on a tous les continents qui sont représentés. Et donc, on a des personnes qui viennent vraiment de tous horizons. On a à la fois des familles. En ce moment, on a une dizaine d'enfants à Nkaza qui viennent à la fois d'Ukraine. On a également des personnes qui viennent d'Asie. Enfin, vraiment, on a d'Amérique latine. Et on a aussi des personnes seules. Et dans les personnes seules, ça va de 19 ans à 74 ans.
Donc, c'est des gens plutôt en précarité?
Alors, à Nkaza, il faut quand même un minimum de ressources puisqu'on leur demande, et ça fait partie, je pense, de leur reprise de responsabilité et d'autonomie, on leur demande de payer un loyer. Donc il y a déjà cette condition de ressources.
Donc, en quoi la maison Nkaza se distingue d'un logement social type? En fait, c'est ça, je pense, l'importance. En quoi c'est différent, Alain Sparbes?
C'est différent dans la mesure où, pour se remettre en route, retrouver confiance en soi, imaginez un avenir, les personnes sont accueillies chez elles, parce qu'elles prennent un bail de location et elles ont une partie privée à l'intérieur de la maison. Mais il y a aussi une vie collective qui se met en place, avec des choses extrêmement simples qui sont, par exemple, la préparation des repas, pour certains l'apprentissage du français, pour d'autres la recherche d'emploi, voilà, la recherche d'emploi, la mise au clair grâce aux services sociaux que je salue en permanence et avec lesquels nous sommes en lien pour leur faire avoir leurs droits sociaux, car beaucoup ont des droits sociaux qu'ils ne font pas valoir, de façon à ce qu'ils retrouvent, si vous voulez, des conditions d'équilibre qui les remettent en route. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et moi qui suis trésorier, ben je vais parler plus argent peut-être que d'autres, c'est ma mission. La personne prise en charge à Nkaza, qui se prend aussi en charge en particulier parce que, par exemple, elle a droit à l'allocation logement et que cette allocation logement correspondra à l'essentiel du loyer, eh bien, quand on fait le coût social descendu sur la personne, nous sommes 4 fois moins chers que les autres structures sociales que nous connaissons. Pourquoi? Parce qu'il y a cette dynamique, qui est une dynamique de groupe, et surtout, il n'y a pas d'ambiguïté sur la raison qui est la nôtre, c'est-à-dire reprendre le chemin.
Delphine Pereira.
C'est-à-dire que les gens ne sont pas là pour une très longue durée. C'est ponctuel, c'est une sorte de tremplin après pour reprendre sa vie et avoir tous les outils pour pouvoir continuer ailleurs, dans Lourdes ou ailleurs, de toute façon.
Palmino Paolucci.
Oui, c'est vraiment ça le but, voilà, de se reprendre les forces et de repartir, voilà. Et à plus reprises, vu qu'on a tous les types de gens présents dans la maison, et nous aurions une petite micro-société à l'intérieur de la maison. Il n'y a pas que des logements, on a des ateliers. Ici, on a Béatrix qui anime deux ateliers. On a un atelier. On a la présence aussi de la société civile de Lourdes qui participe aussi à la vie d'en casa. On a un atelier artistique, on a des jeux de société pour personnes à difficulté moteur. On a un atelier des cultures, voilà. On présente aussi la possibilité de venir habiter en casa aussi de l'extérieur, et ça crée des liens, ça crée des... Voilà, et ça aussi...
Des personnes extérieures à oui. Nkasa qui ne vivent pas là peuvent venir oui. participer
on
aux
ateliers. On a un double projet. On a la partie locative qui sont les trois étages, et on a le rez-de-chaussée qui c'est le lieu de rencontre. C'est la micro-société lourdaise qui vient rencontrer les gens qui habitent la maison.
Ouvert et ça crée... tous. Hein? Ouvert à tous.
Ouvert à tous, oui, avec des activités clairement ancrées dans des horaires, voilà, pour permettre aussi à les personnes qui habitent la maison de vivre chez eux, voilà.
Claire Val, cette maison est ouverte à tous, mais est-ce que c'est facile d'ouvrir les portes? Est-ce que c'est simple? Parce qu'on peut toujours, c'est un frein quand même sur ce type de maison, avec le public qui est accueilli. Est-ce que c'est simple d'ouvrir à l'extérieur cette maison, selon vous?
Ah oui, moi je pense que c'est simple. Enfin, quand les gens franchissent la porte de la maison, eh bien, ils sentent cet esprit de famille qui est là. Ils sentent que les gens qui sont accueillis, qui descendent au rez-de-chaussée, puisque c'est la partie ouverte à tout le monde, eh bien, ils sentent que ces gens sont heureux de les rencontrer et ont envie de partager avec eux. Donc moi je pense que c'est facile, oui. Enfin, pour le moment, on n'a pas de problème.
Et puis de toute façon, c'est un accueil en responsabilité. Que ça soit bien clair. Nous ne prenons pas en charge des personnes dont on s'aperçoit très vite. C'est pour ça que souvent, d'ailleurs, cet habitat, il va y avoir un temps d'essai, un temps d'accoutumance, un temps de connaissance mutuelle. On ne s'engage pas sans avoir une connaissance et un minimum de conscience. Et d'ailleurs, Aliénor pourrait en parler beaucoup mieux que moi, il y a une forme de contrat qui s'échange entre la personne qui est accueillie et la maison qui accueille. Et il faut aussi que les personnes qui arrivent là s'intègrent dans cette maison. Donc il y a beaucoup de paramètres. C'est pour ça que l'admission, et je réponds à la question de David, est un processus, bon, je pense, maîtrisé maintenant parce qu'on a 5 ans d'existence, mais c'est un des éléments qui a été le plus délicat à mettre en place et il n'est jamais stabilisé. Pourquoi? Parce que la précarité, la misère, ça bouge. C'est jamais tout à fait la même chose en fonction des règles, en fonction des personnes, en fonction des événements.
Aliénor, vous qui êtes directrice de cette maison, alors quelles sont les règles? C'est vaisselle obligatoire, jardinage obligatoire, quels sont les échanges, ménage, qu'est-ce que... Dites-nous concrètement.
On plaisante, mais en fait, ces règles-là sont quand même la base de la vie en collectivité. Parce qu'on a à la fois des personnes qui peuvent être très maniaques et d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc finalement, c'est un réel enjeu, ces tâches ménagères dans la vie quotidienne. On leur demande également de s'impliquer dans les repas partagés que nous avons 2 fois par semaine, puisque le lundi midi et le mercredi midi, nous avons des repas partagés. Et ça, en fait, c'est un peu cette première étape dans le lien social qui est très important à Nkasa, puisque une fois qu'ils sont venus déjeuner, ils rencontrent des bénévoles, des personnes qui sont là présentes de l'extérieur, et ça leur donne envie de participer aux ateliers. Et puis, il y a quand même cette idée de se lancer dans un projet de vie. C'est une des, je pense, des clés de Nkasa, c'est que comme c'est une maison tremplin, comme Palmino a pu le dire, l'idée c'est vraiment qu'il faut qu'ils s'engagent à avoir un suivi social, donc en lien avec les services sociaux de la ville, et de me voir minimum 1 fois par mois, ça peut être plus selon les besoins, pour justement travailler ce projet et leur vie après Nkasa.
Béatrix, on ne vous a pas encore entendu, Palmino Paolucci disait que vous organisez des ateliers. Qu'est-ce que vous faites découvrir?
Alors moi, je fais les ateliers du matin, le mercredi matin, pour les enfants. Je les aide aux devoirs. Et ce qui est extraordinaire, c'est comme il y a plusieurs enfants, quand même pas mal d'enfants, ça donne de la vie dans la maison. Et du coup, les personnes, les résidents viennent facilement nous rencontrer, dire bonjour. Et le jeudi après-midi, je fais des jeux de société. Et alors, les premières fois, il n'y avait aucun résident. Ils ne voulaient même pas venir. Ils savaient que c'était les jeux de société, je pense.
Et vous n'êtes pas découragé?
Ah, pas du tout.
C'est pas le genre.
J'ai posé la question en disant, est-ce que c'est intéressant quand même de faire venir des gens d'extérieur alors qu'il n'y a aucun résident? Et j'ai eu comme réponse, mais c'est très important d'avoir de la vie dans la maison. Donc, les jeux de société, c'est de la vie. Ouais. Et aujourd'hui, les résidents viennent jouer. Il y en a eu trois. Depuis 3-4 fois, qui viennent jouer. Je trouve ça extraordinaire parce que les jeux de société, ça détend. Il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est facile. On est en relation les uns avec les autres. Ça leur permet de rencontrer des gens de l'extérieur, des personnes souvent handicapées différemment, handicapées physiques ou handicapées mentaux. Mais ça se passe super bien, quoi. Et il y a de la vie ce jour-là.
Palmino Paolucci, est-ce que... cette lutte contre l'isolement est un enjeu pour la maison. Est-ce qu'il arrive que des personnes arrivant dans une maison comme ça commune se replient sur elles-mêmes? Est-ce que l'isolement, est-ce que c'est un enjeu, la lutte contre l'isolement?
Alors, l'isolement, c'est presque nécessaire quand on est en difficulté. Ça veut dire quand on est blessé, quand on a eu des... Voilà. L'isolement, ça nous permet de créer une carapace à tout le monde. Hein. C'est pas que nous permet de créer une carapace pour nous défendre. Voilà. Et c'est pas arriver au choix d'ouvrir notre carapace, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a des différentes possibilités. Il y a la personne qui ouvre la carapace et si à nécessité, voilà, ça c'est le, si on a un bon repas, alors ça ouvre la carapace sans problème. Il y en a d'autres qui ça ouvre la carapace s'il y a une belle journée qu'on peut proposer d'avoir un temps agréable. Mais ce qu'on a vraiment, ce que disait Béatrice, des fois la clé, ce sont les personnes vraiment avec un handicap physique, et ça ouvre, c'est presque impossible de ne pas ouvrir devant une personne qui a une situation de handicap, qui a envie de vivre. Et là-bas, la personne qui n'a plus envie de vivre se demande, mais pourquoi moi que j'ai déjà demain, j'ai pas envie. Et lui, il est si content, voilà. Et nous, on a deux, trois éléments qui sont des ouvreurs de carapace, que grâce à Dieu, on les a en casa, qui nous aident, voilà.
Béatrix, est-ce que des ouvreurs de carapace, vous en faites partie de la bande, est-ce que vous avez vu véritablement des gens changer, évoluer?
Ah oui. Ah, je peux le dire, j'ai dans la tête une femme qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, mais très fermée, très, très souffrante, ne parlant à peine, il ne fallait pas trop l'approcher. Et puis, et c'est elle qui est venue jouer, la première. Et alors, extraordinaire. Et du coup, elle était en relation avec les personnes. Voilà, donc ça, c'est un exemple extraordinaire. Et depuis, bon, il y a des hauts et des bas, parce que bien sûr, la vie n'est pas facile, mais elle vient plusieurs fois. Donc c'est beau, c'est très, très beau.
Et sur les personnes accueillies, vous avez différents types de personnes et différents aussi types de familles. Il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a des couples. Je suppose que vous avez des appartements qui sont dédiés pour chaque forme de famille que vous accueillez. Et comment ça se passe? C'est comme un immeuble classique, normal, avec des appartements où les gens vont, viennent, les enfants vont à l'école?
Voilà, et ça c'est un peu la spécificité. Voilà, parce que alors les familles, c'est bien garder leur intimité. Alors les familles, c'est proposer, comme on disait, dans les moments de partage, les deux repas partagés, s'ils ont envie, mais ils n'ont aucune obligation parce que ils habitent des appartements qui peuvent bien fermer, garder leur intimité. Et c'est un lieu spécial pour les enfants parce que nous on a des enfants de tout le monde, on a de l'Amérique du Sud, de l'Asie et de l'Ukraine, voilà. Et les enfants, ils ont envie d'être ensemble avec les autres, mais on a une responsabilité majeure parce que voilà, l'unique chose qu'on demande, nous on est là les mercredis avec la télé, on est là pour l'aide aux devoirs, on est là si on fait des sorties, on demande aux parents une certaine responsabilisation. Ça veut dire ils doivent vraiment donner la responsabilité personnellement à quelqu'un. Ils ne peuvent pas laisser les enfants tout seuls. Oui.
Parce que, c'est voilà. Pas une garderie.
Non. Non. Voilà. J'ai aussi mes enfants. Moi oui, aussi, bien. Quand je vais avec mes enfants. Alors, et après, la grosse question, est-ce que c'est bien ou pas bien que les enfants soient en contact avec la fragilité? Pour moi, s'ils sont en sécurité, c'est très bien. Trop bien, je dirais, parce que vraiment, je vois avec mes enfants, c'est, je parle en tant que père, dans un cadre sécurisant, les contacts avec des personnes de différents horizons, ça donne quand même une maturité qu'on ne peut pas expliquer avec les mots, voilà. Oui. Et les partages avec des enfants, de tout, c'est magnifique, et on voit, on vit des moments de vraie joie, voilà, grâce aux enfants.
Si je me souviens bien, la maison Nkaza se trouve au cœur de Lourdes. Elle se trouve en centre-ville, pas loin de du marché, sur la place commune, enfin le champ commun, c'est par là, si je me souviens bien.
Oui, c'est vraiment
alors,
par là.
Alors, comment les locataires de la maison sont intégrés à la vie du quartier? Alors, je pense que de temps en temps, ils vont peut-être à la médiathèque, ils vont peut-être au marché, ils ont des liens avec les commerçants. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le quotidien des locataires par rapport à la vie du quartier?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, souvent, les portes, les fenêtres du rez-de-chaussée sont ouvertes. Donc, les résidents ont l'habitude de saluer les personnes du quartier qui passent. C'est pas rare, quand vous passez, de les retrouver en grande discussion avec quelqu'un du quartier, d'ailleurs. Et ensuite, comme on est vraiment au cœur du centre-ville, c'est aussi très pratique pour leurs rendez-vous sociaux, puisque nous ne sommes pas très loin du CCAS, pas très loin de France Travail, pas très loin de toutes ces structures-là. Et donc, ils arrivent vraiment à s'intégrer, à se saisir pleinement de cette vie-là. Et on n'est aussi pas très loin du sanctuaire non plus, ce qui est très important pour de nombreux résidents qui passent beaucoup de temps, soit les saisonniers qui travaillent au sanctuaire, soit parce qu'ils vont prier à la grotte. Donc, on est à la fois proche du centre-ville et très intégré, ce qui est vraiment pratique pour des personnes qu'on essaye de réinsérer socialement. Et en même temps, voilà.
Peut-être revenons un tout petit peu en arrière sur le fait de vivre aussi avec des personnes peut-être un peu plus fragiles que soi. Vous avez parlé des enfants et des personnes en fragilité. C'est une richesse quand ça se passe bien, ce que vous le disiez. Mais malgré tout, comment ça se présente à une personne qui candidate pour un logement et lui dire c'est aussi intégrer une communauté avec au cœur de cette communauté la fragilité? Comment est perçue cette maison de l'extérieur? Qui est-ce qui voudrait répondre à cette question?
Moi, je pourrais. Alors j'espère d'être pas mal. De bien m'exprimer. Alors, des fois. Ils nous envoient des gens qui n'ont aucune envie d'intégrer notre maison.
Oui.
Voilà. Mais qui ont des gros problèmes. Quand ils nous envoient quelqu'un d'autre, je parle
des situations d'urgence,
mais aussi des situations un peu compliquées. Alors, il y a un propriétaire de la maison en location. Ah, vous que vous accueillez. Alors, dans l'entretien, on a vraiment, petit à petit, comme disait Alain, on a compris comment faire pour discerner vraiment que c'est un choix de la personne qui arrive d'intégrer un projet. C'est pas... parce que c'est clair que la personne qui a besoin de logement, la nécessité, c'est le logement, avoir un toit sur la tête.
Oui.
Et dans des situations compliquées, d'abord, c'est le toit. C'est pour ça que nous, on a mis d'abord une semaine d'essai. Ça veut dire qu'ils n'intègrent pas directement la maison. Ils habitent la maison, mais dans la première semaine, ils participent aux ateliers, ils participent à la vie de la maison, ils participent à l'entretien, à la cuisine, et ça aide un peu à débloquer, parce que c'est pas si simple que ça aussi, voilà. Et il y a des personnes qui sont des personnes merveilleuses, mais qui sont pas prêts à la vie communautaire, à la vie familiale, ils ont même pas envie de... Et là-bas, c'est clair, c'est simple, c'est pas si compliqué que ça. Et cette semaine, des fois, ça peut devenir deux semaines aussi, parce qu'on voit que la réveil l'a pas sonné, on voit que peut-être il y avait un rendez-vous médical, peut-être... Voilà, on relance notre semaine, et après... En tranche, si c'est... Alors, et c'est clair qu'on parle de fragilité, on ne doit pas être parfaite la personne, mais vraiment, l'envie de s'engager, oui.
c'est difficile parfois de lui dire non, tu ne pourras pas rester dans la maison.
Oui, c'est difficile.
Ou lui dire non, tu ne pourras pas intégrer la maison. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes? Comment se passent les refus? Ah, Claire Val, vous dites qu'il y a une grande liste de demandes.
Oui, des listes d'attente de personnes qui veulent rentrer. Oui, on en a beaucoup. On en a régulièrement. Je pense qu'Aliénor peut dire qu'elle en a presque tous les jours qui appelle, qui dit en disant on connaît cette maison, on a entendu parler, on veut rentrer. Mais là, bon, la maison, là, tout de suite, elle est complète. Donc, on n'a pas de chambre. Donc, on met sur des listes d'attente. Mais voilà, mais après, oui, quand les gens sont là et qu'on doit leur dire, on est obligé, tu es obligé de partir, voilà, on ne peut pas te garder, c'est vrai que pour nous, c'est compliqué.
Alain Sparbès.
Dans l'élément de discernement, ça a été dit tout à l'heure, peut-être un peu rapidement, on a des enfants dans la maison. Donc, il est hors de question de ne pas regarder la personne qui arrive par rapport aux enfants qui sont aussi dans la maison. On a aussi des femmes seules qui souvent ont subi des violences. Donc, on fait très attention aux addictions, par exemple, des personnes qui sont candidates. On fait attention à les connaître, et notamment parce que la plupart du temps, avant d'arriver à Nkaza, elles ont déjà fait un cheminement à l'intérieur de Lourdes ou à Prochambre, qui veut dire que notre réseau nous permet aussi de mieux cerner les personnes. Donc, on prend des personnes réellement en situation de fragilité. Toutes les personnes que nous prenons sont en situation de fragilité, mais elles s'intègrent dans une petite communauté qui n'est pas une bulle étanche, qui vit avec son quartier, qui vit avec sa ville, mais sans prendre de risques insoutenables par rapport notamment aux fragilités que nous avons déjà.
Nkaza fait donc partie, Alain Sparbès, toujours avec vous, d'un réseau d'acteurs de la solidarité locale. Vous êtes également aidé par la Fondation pour le Logement
Social.
Pour le Logement Social, pardon. Fondation pour le Logement Social. Comment s'articule la vie entre tous ces acteurs?
L'immeuble que nous habitons était précédemment un hôtel. Et cet hôtel, il a fallu le transformer pour en faire 17 possibilités de logements différentes. Et certains de ces logements peuvent s'agréger, c'est-à-dire qu'on peut rassembler plusieurs pièces pour faire un appartement, notamment pour une famille, etc. Donc il y a une espèce d'ingénierie quand même du bâtiment en tant que tel qui a été construite pour ça. Et donc, nous n'avions absolument pas la capacité financière de le faire. Et la Fondation pour le logement social, qui est une émanation de Raoul et Madeleine Folloreau,
ah oui. Hein,
bien connus, c'est précisément son métier, c'est sa raison d'être. Et donc, ils ont acheté cet hôtel, qu'on connaissait dans le Haut de Lourdes comme l'hôtel Cazot, rue des Rochers, et l'ont transformé pour en faire à la fois des logements individuels et un plateau de rez-de-chaussée collectif. Autrement, une cuisine qui permet la vie en collectivité, ce qui n'est pas rien. Et c'est donc, les murs sont possédés par la Fondation du Logement Social. Et nous payons tous les mois un loyer à la Fondation. Et chacun des locataires paie sa part de loyer à la Fondation. Et notre association, elle, paie sa part de loyer pour la partie commune. Donc c'est un système très simple, mais qui est possible en France. Et encore une fois, moi j'aime bien relier nos affaires, qui sont certes lourdaises, à un dispositif beaucoup plus large, c'est-à-dire que c'est éligible au crédit à long terme, à bas taux ou à taux variable lié au livret A pour la Fondation du Logement Social, ce qui veut dire qu'il y a une incitation fiscale collective à pouvoir travailler ce genre de projet. Et puis, également, un certain nombre d'acteurs, et en particulier la préfecture, le préfet, la direction des territoires nous ont aidés. Et ça a été un travail complexe parce que c'est très réglementé. Nous avons obtenu l'agrément pour faire de l'intermédiation sociale, c'est-à-dire que nous sommes le locataire de la FLS et nous sous-louons en clair aux personnes que nous accueillons. Et nous sommes devenus bailleur social, ce qui est une qualité exceptionnelle qui nous permet effectivement d'être à bon droit par rapport aux règles qui s'imposent à nous pour réaliser l'activité sociale que nous avons.
Anne Deloye.
En fait, vous êtes constitué du coup en association. Et bon, il y a donc beaucoup de bénévoles. Vous avez peut-être quelques salariés. Eleonore, en tant que la directrice, vous êtes peut-être salariée.
Oui.
Vous avez. Il y a d'autres. C'est la seule salariée. Oui. Et ça fait combien de bénévoles à vos côtés pour.
Alors, il faut dire le compte parce que ça bouge. On a un fonds, je pense, au moins d'une cinquantaine de personnes.
Oui.
Vous avez par exemple un médecin qui vient toutes les semaines.
Voilà.
Vous voyez, par exemple, qui se met à disposition, qui est là, à heure fixe, qui est à disposition. Voilà. Nous avons. Je vais parler pour elle, c'est mon épouse. Elle vient le mercredi, elle fait un atelier couture. Et pour beaucoup de personnes qui n'ont pas grand-chose, eh bien, ils viennent faire repriser leurs pantalons. Hein, je l'ai vu récemment, donc je peux en parler. Ou ils vont réaliser un certain nombre de travaux qui améliorent leur vie. Voyez, et vous avez une multitude, si vous voulez, de propositions. Alors là aussi, on est sélectif. Pardon de le dire. Il faut que ça s'intègre, il faut que ça rentre dans un cadre. Et c'est pour ça que la maison, elle est régie aussi par une charte. Certes, il y a le bail de location que nous signons mutuellement entre un locataire et nous, mais la personne qui vient habiter chez nous, elle intègre une maison qui a sa règle de vie, s'appelle une charte. Mais aussi les bénévoles.
Ah oui.
Vous voyez, donc on a une. Alors, c'est pas rigide. La preuve, on la reprend de temps en temps pour l'adapter à des situations qu'on n'avait pas anticipées ou pour corriger par rapport à des leçons apprises. Donc, c'est une matière vivante. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette association, et ceux qui me connaissent savent, je suis engagé dans beaucoup d'associations, c'est son professionnalisme. Pas parce qu'il y a des bénévoles, pas parce que nous sommes sans but lucratif, en gestion des intéressés, que c'est de l'amateurisme. C'est tout sauf de l'amateurisme. Et d'ailleurs, parce qu'ici on est à Lourdes, je rappelle que la première charité, c'est la compétence.
Palmino Paolucci, vous faites les portes ouvertes de la maison En Casa jeudi 19 mars, jour de la Saint-Joseph. Ça, c'est pas choisi au hasard.
Non, c'est pas choisi au hasard. Voilà, on fait la fête à Saint-Joseph parce que vraiment, dans le parcours, on a eu des hauts, des bas, et d'un moment des bas, on a vraiment. Voilà, et on a déjà fait des portes ouvertes en passé, et celle-là, on a vraiment voulu faire la fête à Saint-Joseph, qu'on a demandé des choses, on l'a reçu, voilà. Ici, un produit de notre atelier que je voudrais te présenter, voilà.
C'est la bonne odeur de la bonté, un
voilà.
Petit cœur. Oh, un cœur parfumé sans tessin.
Ça, c'est un produit de notre atelier.
Ça, c'est
il y avait qui? Il y avait de la lavande.
Voilà. Un cœur de bonté, parce que c'est ça aussi, vous donnez c'est beaucoup,
beau.
Vous avez également besoin de recevoir.
Oui.
Et donc, c'est aussi peut-être l'occasion de faire ces portes ouvertes, c'est de dire que vous êtes là aussi pour accueillir des dons. On peut vous soutenir?
Oui, bien sûr, on peut nous soutenir.
On peut acheter plein de petits cœurs qui sentent bon la bonté.
Je voulais présenter, voilà, il y a un coup de
cœur. Ah oui, oh, ils sont malins. Vous qui n'avez pas l'image. Donc ce petit cœur de tissu qui est fait certainement dans un atelier couture,
oui.
J'imagine bien, avec plein de lavande à l'intérieur. Donc il y a une étiquette, En Casa, la bonne odeur de la bonté, mais derrière, surtout, il y a le QR code. Donc avec le QR code, on le scanne et on tombe sur le formulaire de don.
Oui,
là, c'est ça. Il faut le faire. Pourquoi c'est important, Alain Sparbès, de faire un don?
On va parler chiffres, parce que ces chiffres, ce sont ceux, effectivement, de la bonté. Pour que la maison continue son œuvre, il faut qu'elle trouve, en moyenne et en flux, 75 000 euros par an. Voilà. Un peu moins de la moitié vient des loyers et des participations des locataires que nous recevons. Le reste vient exclusivement des dons. Et quand on fête le cinquième anniversaire de notre maison, il faut bien s'apercevoir que les premières années ont été extrêmement difficiles. Et je profite d'avoir l'antenne pour remercier personnellement trois acteurs qui nous ont permis de décoller. Et je veux citer David Saint-Laurent, patron des Centres Leclerc, qui nous a donné 40 000 euros, ce qui nous a permis de décoller. Je veux citer les religieux des servantes de l'Eucharistie de Lourdes, qui nous ont donné 10 000 euros, qui a permis d'engager Aliénor, qui est notre salarié. Je veux saluer la ville de Lourdes qui nous accueille bien sûr à Lourdes et qui nous attribue par an environ 4000 euros de subvention. Donc c'est une partie de notre besoin. Et c'est pour ça que nous faisons cette campagne Saint-Joseph, évidemment le 19 mars, Saint-Joseph, patron des familles, quelque part, voilà, et nous sommes une famille, une maison, elle n'a de sens que parce qu'elle fait famille, et on fait famille notamment quand on partage un déjeuner ou des activités, mais c'est aussi le carême. Et pendant le carême, nous sommes invités à faire l'aumône, c'est-à-dire à prendre dans notre nécessaire pour le donner à plus nécessiteux que nous. Et c'est pas par hasard que pendant ce carême, le 19 mars, nous ouvrons notre maison et nous faisons encore une fois connaître. Voilà. Et je suis sûr que Saint-Joseph, c'est chacun de ceux qui nous écoutent et qui s'intéressera à nous apporter quelque chose. Certes, nous défiscalisons. Mais vous avez compris que nous sommes extrêmement rigoureux dans notre gestion. Certes, nous sommes bénévoles, mais c'est un vrai cabinet d'expertise comptable. C'est un vrai conseil d'administration. Nous sommes contrôlés, évidemment, puisque nous avons une subvention, nous sommes contrôlés par les services de l'État et c'est très bien.
Voilà. Merci beaucoup Alain Sparbès. Le mot de la fin, il est pour le président, évidemment. Je crois que vous êtes fier de votre équipe. Ah, qui est là. Tout le monde n'est pas. Il est trop petit.
Oui, studio, tout le monde.
Mais oui, on a dû vous dire stop. Vous êtes fier?
Oui, je suis fier. Et surtout, moi aussi, avec ma famille, j'en profite. On ne peut pas dire en français en profite. J'ai passé des bons moments. Voilà, j'ai bénéficié, merci, de cette œuvre aussi avec ma famille. J'ai passé du temps moi aussi. Voilà. Et aussi, la dernière chose, les concerts organisés pour le soir. Ce pianiste italien qui vient jouer, et voilà, il a déjà joué il y a 2 ans, je l'ai connu comment, c'est un hospitalier Notre-Dame, voilà, comme d'autres.
Alors voyez, ce programme de cette journée, oui, du jeudi 19 mars, vous cherchez sur internet associationncasa.fr, oui. Mais déjà Ncasa Lourdes, oui. Sur Google,
ça suffit,
hein, voilà, nos amis de la Dépêche du Midi l'ont trouvé, et puis Claire Val aussi, à l'occasion aussi de saluer une correspondante, une collègue pour la dépêche, et donc vous découvrir d'une autre façon cette fois-ci. Donc jeudi 19 mars, ben voilà, il faut y aller, il faut pousser la porte, rue du Rocher, centre-ville, près du marché, hein, Anne Deslois, vous nous confirmez?
Eh bien, j'irai.
Ouais, vous irez?
Bon, ah, ben, oui,
parfait. Pareil. Eh bien, renseignez-vous, et en tout cas, il y a besoin, évidemment, un beau concert de piano à la fin pour clôturer cette belle journée. Merci d'avoir été avec nous. On reprendra des nouvelles, quand même, de la maison Ncasa.
Merci, avec plaisir.
Et on se vous dit à une prochaine fois. Merci
au
à
au
tous.
Revoir. Merci.
L'heure de pointe, David Torchala.